Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à tous, nous allons ouvrir un premier passage, une lecture, première lecture, voilà, on peut dire les choses comme ça. Celle-ci se situe dans le livre du prophète Michée. Alors, vous voyez où ça se trouve ? Donc, c'est pratiquement à la fin de l'Ancien Testament, et nous allons lire simplement un verset qui va nous situer, que nous retrouverons en conclusion d'ailleurs de notre message. Alors, on va commencer par cette parole apportée par le prophète Michée. Au chapitre 6 et au verset 8. D'ailleurs, ces paroles, on la chante dans un petit chœur hein, que vous connaissez. Et il est dit ceci, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Vous avez encore un petit peu l'air dans votre tête, hein? Parce qu'on l'a chanté pendant des très très longtemps. On t'a fait connaître ce qui est bien. Et la parole de Dieu, eh bien, c'est vrai, nous montre la voie, le chemin, ce qui est bon et ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce qu'il attend, toi qui crois et qui sais maintenant, puisque tu l'as fait connaître, c'est que tu pratiques la justice et pas de dire hein, seulement de parler de ce qui est juste, mais de le vivre, que tu aimes la miséricorde, et miséricorde c'est lié avec la justice, et que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est-à-dire que tu aies un comportement de modestie humble. Et puis, nous allons ajouter à ce premier texte un autre passage de circonstance qui nous ramène eh bien, tout simplement à la passion de Jésus à Pâques. C'est dans Matthieu, chapitre 27 et verset 16. Voilà. Chapitre 7, verset 15, si vous voulez, on va commencer par là. Hein. Donc, Matthieu, chapitre 27, verset 16. Alors, j'ai sous les yeux cette parole. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyez qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. L'histoire qui nous est rapportée, c'est avec quelques détails que j'aimerais justement souligner, nous ne les trouvons pas dans les trois autres évangiles, Marc, Luc et également Jean, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier qui a été saisi par l'Écriture, en Écriture, par Matthieu, que nous allons méditer d'ici quelques instants. Et il y a en effet bien là une alternative. Alors il y a ce personnage qui s'appelle Pilate, alors il est appelé le gouverneur. On le connaît également dans ses autres titres, il était procurateur de l'empereur romain, Rome, et il avait un pouvoir de vie et de mort sur les provinces qui avaient été conquises par les légions romaines. C'est-à-dire que les peuples n'avaient pas le droit, finalement, de mettre à mort un individu, il fallait passer par Pilate. C'était la, la plus haute instance judiciaire, selon les lois des Romains, la loi romaine. Alors, il y a naturellement cette alternative qui est proposée, il se trouve devant le peuple, un peuple qui est chauffé à blanc, on va le voir, qui est vociférant, qui est en train de crier, il y a quelque chose qui se passe à Jérusalem, et il y a naturellement cette alternative. Relâcher ou retenir. C'est important ces verbes, parce que Pilate est le seul à avoir le pouvoir. Les Juifs, même les plus hautes instances, le Sanhédrin, les docteurs de la loi ou les sacrificateurs, enfin toute cette élite du peuple juif, n'avaient pas le droit de mettre à mort comme cela. Et pourtant, Jésus était juif, mais il fallait passer par l'autorité naturellement du procureur. Et les deux mots qui apparaissent dès l'abord de notre lecture, c'est « relâcher l'un et condamner l'autre ». Et c'était pas une petite affaire, parce que c'était une affaire qui était à la fois politique et aussi religieuse. Et vous remarquerez que c'est ce que Jésus dira à un moment donné, dans d'autres circonstances, il dira « l'un sera pris, l'autre laissé ». Alors, celui qui est pris, est-ce que c'est celui qui va mourir, celui qui est laissé, c'est celui qui va vivre, ou le contraire ? Peu importe, mais enfin, tous les cas, il y en a deux, il faut en choisir un. Un pour le sacrifice. Un pour la condamnation suprême, pour la peine capitale. Et c'est une affaire de conscience et de vérité. Il y a un autre entretien que nous avons dans Jean, où Jésus va être confronté avec Pilate, enfin le procurateur, et il va y avoir une conversation peut-être un peu plus suivie entre Jésus et Pilate. Et Pilate dira à un moment donné, peut-être agacé, parce qu'il ne sait pas quel parti prendre dans cette affaire, il dira « mais qu'est-ce que la vérité ?» Et Jésus de lui répondre tout simplement « Mais quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Il semblerait que quand on prend l'évangile de Matthieu, Pilate n'a pas été capable. Lui qui était véritablement un magistrat, qui était versé dans le droit, qui avait tout pouvoir, il n'a pas été capable de choisir. Et pourtant, c'était simple de choisir. On va le voir d'ailleurs, on va le développer d'ici quelque temps. C'est une affaire de conscience. Qu'est-ce que l'on doit faire? Il y a menace d'une émeute, d'une manifestation qui peut tourner très très mal, s'il y a une décision qui est prise contre le suffrage du peuple, ou alors à ce moment-là, on va sacrifier quelqu'un qui n'y est pour rien, et puis on verra bien. Ça coûte moins cher, ça ne coûte rien. Alors, conscience est un principe de vérité qui doit être mis à jour. C'est vrai que devant le Sanhédrin, qui est la haute instance de la nation d'Israël, le Sanhédrin, ce serait un peu comme le conseil des ministres aujourd'hui, chez nous, quelques détails près, ou peut-être davantage, mais le Sanhédrin, donc, c'était les hautes autorités juives, et elles avaient naturellement regard sur tout ce qui était social, sur tout ce qui était un petit peu politique, parce que la politique, c'était les Romains, mais sur tout ce qui était religieux. Et le Sanhédrin, Jésus était condamné pour, finalement, de faits religieux. Voilà, Jésus avait parlé contre ceci, cela, mais il n'avait pas parlé pour être finalement insultant, il avait parlé pour dire la vérité sur le comportement de cette nation d'Israël qui avait des siècles et des siècles finalement de connaissance de Dieu, de sa parole, de la justice. C'est pour ça qu'il est dit dans notre texte premier, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu as la connaissance, tu as la loi, tu as les prophètes, etc. C'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde, et que finalement, tu marches humblement avec ton Dieu. Ce qui n'était plus le cas. Alors si Jésus, finalement, ce qui a été peut-être mal compris. Ce n'était pas que Jésus voulait renverser, faire une révolution en Israël, c'est qu'il disait tout simplement la vérité sur un peuple qui n'était plus le peuple de Dieu, qui était un peuple religieux mais hypocrite, hein, et qui quelque part avait fait de Dieu, eh bien, ses bonnes affaires, son commerce et tout ce que vous voulez. Donc, devant le Sanhédrin, devant les hautes autorités juives, Jésus est condamné par voie de fait, finalement, d'avoir critiqué, eh bien, la religion. Parce qu'il avait dit à un moment donné, « Je suis le Fils de Dieu ». Et pour les Juifs, c'était un blasphème. Et un blasphème dans la loi juive, c'était la mise à mort, hein, lapidation, enfin, toutes sortes de choses. Mais ils ne pouvaient pas le faire, puisqu'il y avait, ils étaient sous occupation romaine, et ils ne pouvaient pas le faire. Et devant Pilate, eh bien, quand Jésus, finalement, là, est dans les circonstances que nous sommes en train de détailler, eh bien, la condamnation n'était plus religieuse devant Pilate, elle était politique. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que les Juifs poussaient à ce que Jésus se mette en porte-à-faux par rapport à l'Empire romain, par rapport à l'empereur de Rome, et l'accuser de visée révolutionnaire. Et vous connaissez aussi ce que un jour on est venu voir Jésus avec une pièce de monnaie, et on est venu lui tendre un piège en disant « Mais à qui appartient finalement cette pièce de monnaie, cette effigie ?» Alors il y avait certainement eh bien l'effigie de César dessus. Et Jésus répondra ce que nous connaissons tous, puisque nous le savons ça. Hein, ça fait partie des grands classiques de la connaissance de la Bible. Il dira « Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. » Donc Jésus les renvoie à leur question captieuse, à leur question mal intentionnée. Alors donc... il est condamné d'une part pour les questions religieuses, si c'est les Juifs, et d'un autre côté, on essaie de le pousser à se compromettre politiquement, et peut-être que 4 jours auparavant, Jésus avait fait son entrée à Jérusalem en triomphe. Alors, ça pouvait émouvoir également, en quelque sorte, les autorités qui géraient la Palestine à ce moment-là, en disant, mais quel est cet homme qui vient entouré d'une foule immense? Et on est en train de déposer ses vêtements, on est en train de couper des branches d'arbres pour lui faire un chemin. Il vient là, assis sur un ânon, et on est en train de lui faire un gros triomphe. Est-ce que ce serait pas lui qui, quelque part, apporterait la révolution? Mais peut-être que ça a été aussi des éléments. Mais Pilate est beaucoup plus fin que ça. Il ne va pas tomber dans le piège dans un premier temps, parce que vous avez vu l'attitude de Pilate. Hein. Mais le problème de Pilate, c'est qu'il ne sait pas choisir. C'est tout. Pour un homme de cette catégorie, de cette dimension-là, il ne sait pas choisir, on va le voir. Lorsque nous lisons un peu plus haut, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais il est dit à un moment donné au verset 11, « Jésus comparé devant le gouverneur, c'est ce qu'on a vu il y a un instant, le gouverneur l'interrogea en ces termes, et il va lui demander, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, cette parole déconcertante, « Tu l'as dit. » Jésus ne dit pas « Je suis ». Mais il se sert des paroles de Pilate, « Tu l'as dit ». Et nous voyons qu'à travers tout cela, c'est une affirmation sans réserve, prononcée par la bouche d'un païen, c'est Pilate le païen, c'est le Romain, de la royauté divine de Jésus. « Tu l'as dit, c'est toi qui le dis, toi le païen ». Surtout que les Juifs ne pouvaient pas dire ça. Hein. Ils ne voulaient surtout pas savoir que Jésus était le Messie. Ça les horripilait au plus haut point. Ça les mettait dans une fureur et une rage. D'ailleurs, leur fureur et leur rage s'est calmée lorsqu'ils ont saisi Jésus et qu'ils l'ont emmené jusqu'à la croix pour le crucifier. Là, mais l'affaire n'est pas finie, hein, parce que Jésus, ça ne s'est pas terminé là. Alors, on va aller un peu plus loin dans le verset qui suit. Alors, comme ils étaient assemblés, il y a cette question qui est posée, mais lequel, dira Pilate à la foule, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Deux noms, Barabbas et Jésus, qu'on appelle le Christ. Alors Barabbas, qui est ce personnage? Barabbas, c'est une figure que nous retrouvons à travers les 4 évangiles, naturellement. Et Barabbas, c'était un partisan, c'était un maquisard, c'était un criminel peut-être, on pourrait dire ça. Non pas peut-être criminel de droit commun, mais criminel parce qu'il voulait faire des coups de main avec certainement eh bien un petit groupe pour essayer de chasser les Romains. Il en était loin, parce que c'est pas avec quelques hommes qui pouvaient finalement chasser l'Empire, hein, enfin l'occupation de la Palestine à ce moment-là. Et nous nous apercevons que Barabbas, c'est ça. C'est un homme qui a certainement du sang sur les mains et qui a fait des coups de main, qui a été recherché pendant très très longtemps par les Romains. Ils n'ont jamais pu mettre la main sur lui jusqu'au moment où il était prisonnier. Et il y avait une tradition à Pâques, dans la Pâque juive, c'est que on relâchait un prisonnier quel qu'il soit. On choisissait un prisonnier, un vrai. Et le procurateur, eh bien, l'a décidé en disant voilà, on tape sous. Mais là, cette année-là, il y en avait deux. Il y avait deux prisonniers. Il y avait Barabbas, qui était un homme de sang, un homme violent, un soldat, on pourrait dire, et qui avait certainement, eh bien, l'a tué ou fait massacrer plusieurs soldats romains, sinon peut-être plus, hein, dans des escarmouches ou dans toutes sortes de confrontations. Et puis il y avait Jésus. D'un côté, vous avez le criminel, le meurtrier, qui ne regarde pas, qui n'arrête pas, que rien n'arrête, et qui est capable de prendre la vie des autres. Puis d'un autre côté, il y a Jésus, qui lui donne sa vie pour les autres. Un homme de sang d'un côté, et un autre qui va donner son sang, pour une raison particulière que nous allons voir d'ici quelques instants. Donc, c'est ce qui est proposé, et il nous est donné cette petite annotation, il nous est dit « car Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus ». Voilà, en tous les cas, il y a une chose, si c'est pas tout et s'il ne peut pas finalement être déterminé, il savait une chose, il avait compris, Pilate, que si Jésus se trouvait dans ce choix-là, ce jour-là, à ce moment-là, à cette occasion-là, c'est que les Juifs avaient une profonde aversion de Jésus. Ce Jésus qu'ils avaient vu parcourir les chemins d'Israël, d'une région à une autre, qu'ils avaient probablement pour la plupart, eh bien là, entendu peut-être ses paraboles, ses messages, ses enseignements, certainement avaient été des témoins oculaires dans certains cas de la manière dont ils traiter les malades en faisant marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts, et puis des miracles, etc., etc. Mais comme Jésus rassemblait beaucoup de monde, il rassemblait des foules, puisqu'il nous est dit que des foules, au pluriel, hein, se rassemblaient pour entendre Jésus ou voir Jésus. Alors imaginez-vous que l'establishment religieux d'Israël, ça leur plaisait pas, parce que Jésus était celui qui allait capter, finalement entraîner avec lui, eh bien, de nombreux des hommes, des femmes de la foi israélite pour les amener. Et Jésus passait pour un usurpateur, il passait pour un diviseur, il passait pour quelqu'un qui finalement était en train de, comme on dit, hein, jeter un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. D'ailleurs, on le voit au temple. À un moment donné, Jésus, avec une, on pourrait dire une sainte colère, hein, quand il va rentrer dans le temple de Jérusalem et qu'il va voir le commerce. Quand il va voir tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y passe, l'argent, les échanges, les vendeurs, etc., etc., Jésus va venir et il va mettre tout ça par terre. Ça ne l'aura pas plu non plus, hein. Ça fait partie des choses qui, quelque part, ont été des prétextes. Eh bien, pour les Juifs remplis de haine et remplis de jalousie par rapport à Jésus, eh bien, pour le crucifier, pour dire, voilà, il faut se débarrasser de lui. Une fois qu'on sera débarrassé de lui, on n'entendra plus parler. On n'entend plus parler. Ils n'ont pas pensé que 21 siècles après, on en parlerait encore. Hein? Ça, c'est bon. C'est ça. Hein? Les choses sont ainsi. Mais il y a, et c'est ça ce qui nous est donné par Matthieu, qui n'est pas dans les autres textes, et je voudrais justement que nous puissions nous entretenir. Hein? Il nous est dit au verset 19, « Pendant que Pilate siégeait au tribunal au moment où nous sommes en train de parler, et qu'il pose la question, qu'est-ce que vous voulez ?» Barnabas ou Jésus. Il nous est dit que la femme de Pilate lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alors ça, c'est un verset qui nous interpelle les uns et les autres. Moi, ça m'a interpellé quand je ne savais pas ce que j'allais dire ce soir. Et cette parole, ne te mêle pas de cette affaire en quelque sorte. Hein, c'est ce que nous avons lu, hein, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Et c'est vrai que c'est interpellant. Parce qu'il y a là, même au cœur du drame qui se prépare, c'est-à-dire un homme innocent qui va être livré à la mort, un homme coupable qui va être relâché, qui va être libre de refaire exactement les mêmes choses qu'il avait fait auparavant, c'est-à-dire tuer du Romain, on pourrait peut-être dire cela, parce que, bon, on peut peut-être le penser. Nous voyons que c'est un incident qui survient dans cet évangile, qui est consigné par Matthieu, un incident en apparence anodin. La femme de Pilate intervient, voire même interrompre son mari qui est dans le prétoire, qui est en train d'instruire une affaire difficile, c'est vrai. Et nous voyons qu'il y a là un caractère extraordinaire. C'est une païenne. Elle est en poste, son mari est en poste, et c'est certainement, là, un haut magistrat, probablement impérial. Et nous voyons que c'est la seule fois où on entend parler que, il était marié, là, naturellement. Sa femme est intervenue pour lui dire, mais qu'il n'y a rien. Ne te mêle pas de cette affaire entre toi et ce juste, car moi, j'ai souffert. Elle devait être un petit peu au courant de ce qui se passait, de tous les événements qui s'étaient passés auparavant, de ce fameux Jésus prophète de Nazareth, qui faisait du bien, qui guérissait les malades, etc. Elle avait certainement entendu parler. La Palestine, c'est pas Israël, c'est pas un grand pays, hein. Et ça devait faire du bruit, on en a entendu parler. Même les Romains étaient au courant de tout cela. Alors, elle dira, mais j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert en songe. À cause de Jésus, à cause de cet homme que tu es en train d'auditionner pour savoir ce que tu vas faire de lui. C'est prophétique. Hein. Et on va le voir d'ailleurs. Hein. Pourquoi une païenne? Ça aurait pu être une juive. Ça aurait pu être un grand prêtre, par exemple. Moi, je pense à Nicodème, qui était un homme favorable. Ouais, quand même. À Jésus. Peut-être d'autres, hein, qui seraient intervenus en disant, nous plaidons pour que notre compatriote Jésus, tu l'épargnes. Tu as Barnabas, lui, on n'a pas besoin d'instruire l'affaire. On sait que c'est un criminel et il mérite la mort. Tout le monde le sait qu'il mérite la mort. Mais personne n'a rien dit. Il faut que ce soit une païenne dont Dieu va se servir pour dire à son mari, peut-être que Monsieur Pilate n'entendait qu'écouter peut-être sa femme. C'était peut-être elle qui avait l'autorité dans le foyer, je ne sais pas. Vous savez comme on dit là, quelquefois, je ne veux pas le dire, mais... Peut-être que c'était elle qui avait peut-être là, elle savait peut-être qu'elle serait entendue et que les autres hommes, d'une manière ou d'une autre, même les soldats de différents grades, n'avaient aucune entrée pour persuader Pilate de relâcher Jésus. Donc, sa femme, il nous est dit dans le texte qu'elle est émue, qu'elle est troublée, qu'elle est véritablement bouleversée par cette affaire de ce juif, de ce Jésus. Pourquoi l'est-elle? On ne sait pas. Et elle va avoir un songe. Un songe, c'est-à-dire qu'elle va avoir la pensée d'une manière spontanée, subite, qui va lui venir. C'est pas un rêve, c'est un songe, une pensée très forte qui va s'imposer à son esprit et qui souligne la nature et la provenance de cette révélation. C'est à la fois un témoignage auprès de son mari, attention, ne te mêle pas de cette affaire. Et c'est aussi un avertissement. Et on va voir justement que il y a des conséquences à tout cela. Alors, si nous allons un peu plus loin, les principaux sacrificateurs et les anciens, donc les hautes autorités du peuple juif, persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Imaginez-vous le tableau. Jésus vient d'être livré, il a été jugé par Caïphe parce que c'est l'autorité religieuse, on l'amène devant Pilate, la plus haute autorité, parce que pour mettre quelqu'un à mort, il faut que ça passe par Pilate. Donc il se trouve dans cette situation. Et nous voyons que c'est toutes les hautes instances, finalement, des Juifs, qui va souffler sur la foule, qui va chauffer la foule, qui va amener finalement tous ceux qui sont là en disant, écoutez, comme dans les élections d'aujourd'hui, vous savez, votez pour hein, manifestez-vous et dites que nous, Barabbas, c'est pas grave, mais par contre, on veut la peau de Jésus. On veut la mort de Jésus. Alors, ils ont tellement fait certainement les choses, ils sont passés de proche en proche, ou alors ils le criaient à haute voix, « Nous voulons la mort de Jésus !» Il y en avait un qui devait certainement se trouver un petit peu plus rassuré, c'était Barabbas quand il entendait ça. Hein. Il se dit, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors, de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Nous voyons qu'il y a dans le mouvement et les intentions ou les mobiles de Pilate, on sent ici et ailleurs d'ailleurs que Pilate, quelque part, n'a pas envie que Jésus meure, pour des raisons parce qu'il n'a pas de raison de le faire mourir. Ça aurait été un criminel, Ça aurait été un homme qui aurait là fait une sédition contre l'Empire. Peut-être, il y avait des raisons. Mais qu'est-ce que l'on peut faire avec Jésus? Qu'est-ce que l'on peut faire? Il est bien dit, mais lequel voulez-vous? Il insiste que je vous relâche. Ça fait deux fois que nous lisons, que nous voyons, eh bien, là, la proposition de relâcher Jésus. Parce qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi écrire. On va le condamner pour quoi, Jésus? On ne sait pas, il ne sait pas. Alors à ce moment-là, la foule qui est chauffée à blanc va répondre tout simplement « Barabbas !» Pilate leur dit, en toute logique de quelqu'un qui ne sait pas, de quelqu'un qui ne veut pas non plus, de quelqu'un qui se dit « Mais c'est la première fois de ma vie que je vais rendre un jugement qui sera une pure iniquité, qui sera véritablement de l'injustice pure. Alors mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Qu'est-ce que je vais faire ?» La demande est de le faire périr, et les gens, plus ça monte. Et ils insistent. Il n'y a plus qu'une voix dans la foule. C'est Jésus à mort. Jésus doit mourir, tout simplement. C'est un choix que fait le peuple d'Israël contre nature. Et un choix, finalement, contre l'évidence même. Vous vous rendez compte, ce même Jésus, qui hier était acclamé 4 jours auparavant, qui hier était suivi par des foules et qui était admiratif. Certains disaient, mais Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. On connaît l'histoire. Hein? Même l'apôtre Pierre en disant, mais moi, je mourrai pour toi. Bah, Pierre, où il est dans cette affaire? Il est plus là, il est caché. Et puis bien d'autres comme ça que nous trouvons dans l'évangile. Il nous est dit qu'au moment de la croix, un peu plus tard de ce récit, il nous est dit que tous s'enfuirent, les disciples, et ils regardaient de loin Jésus crucifié sur le Golgotha. Parce que finalement, il ne voulait pas s'approcher de trop. Pierre va même renier Jésus au moment où le coq chante, vous savez, l'histoire du coq qui chante, hein, dans la cour du sacrificateur en disant « Mais je connais pas cet homme ». Il reste plus personne finalement, plus personne pour défendre Jésus, pour assister Jésus. Alors le choix est contre l'évidence. « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» va insister Pilate. Parce que Pilate, dans son fond intérieur, et c'est ça justement le drame de Pilate, et c'est là où il est coupable Pilate, c'est qu'il sait la vérité et il ne va pas tenir compte de la vérité. Et vous allez voir pourquoi les mobiles qui sont les siens. Préférence pour un meurtrier notoire. Tout le monde sait que Barabbas, c'est un homme mauvais, c'est un homme méchant. Bon, il fait la guerre, ça c'est sûr, mais c'est un homme qui n'a pas d'état d'âme pour tuer, il n'y a pas de problème. Le sang est sur ses mains. Parce que, on peut le dire à la décharge de Pilate, je ne sais pas si c'est une décharge, mais c'est quand même une constatation que nous avons dans l'Écriture, c'est que peut-être, je dis bien peut-être que Pilate imaginait que les Juifs, oui, ce peuple qu'il gouvernait en quelque sorte, ferait le choix de Jésus à cause de la réputation de paix de Jésus, la réputation de grâce, la réputation miraculeuse, surnaturelle, ces pouvoirs surnaturels divins que Jésus finalement, eh bien, ses œuvres, ses paroles divines, non. Pilate était un païen, et il n'avait peut-être jamais touché la profondeur de la noirceur du cœur humain. Pourtant, c'était quand même quelqu'un qui ne devait pas avoir d'état d'âme, hein. Il dirigeait une nation par procuration, naturellement, c'est pour ça qu'il était procurateur, et procureur, et que quelque part, mais là, à ce point, c'est pas possible, entre un homme qui mérite la mort et quelqu'un qui est juste et innocent, qu'est-ce que l'on fait dans cette affaire quand on sait qu'il est innocent? Ben, on se prononce pas. Ou on défend en tous les cas. Mais là, c'est certainement que Pilate était encore quelque part avec ses illusions de la justice humaine. Oui, que quelque part, eh bien, c'est vrai qu'il y a ceci, qu'il y a cela, etc. Moi, je me prononce pas sur les événements d'aujourd'hui, vous savez. Les criminels qui tuent, qui violent, qui égorgent, les serial killers et tout ça, etc., etc. Je ne me prononce pas, parce qu'il y a des lois chez nous. Mais quelquefois, ça donne haut le cœur, hein, de voir les choses, les atrocités, et de voir que, bon, c'est comme ça. Moi, je crois à la grâce. Hein. Maintenant, la grâce, elle doit porter ses fruits. Si les jeunes, si les hommes se convertissent et se tournent vers Jésus-Christ et changent de vie, on est d'accord. Maintenant, le reste, c'est une affaire d'illusion peut-être humaine. Il y en a un qui devait se frotter les mains. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Barabbas quand il a vu que finalement il allait être libéré, alors qu'il, quelques instants auparavant, ou peut-être une heure avant, il savait qu'on allait le crucifier. Parce qu'attention à la crucifixion, hein. C'est pas comme un coup de fusil avec un 5 ou 6 balles dans le corps. C'est pas la même chose, hein. Et il y a des morts qui sont faites, enfin, il y a des peines capitales qui sont faites et c'est très rapide. C'est vrai, c'est déjà terrible, c'est épouvantable, nous pourrions dire. Mais la crucifixion, vous savez ce que c'est? C'est une strangulation, on meurt par strangulation. Et non pas qu'on ait quelque chose autour du cou, mais c'est parce qu'on est sur la croix et on meurt d'étouffement. Parce que le corps, à un moment donné, il pèse. Et le condamné meurt par étouffement. C'est une des morts les plus terribles qui soit. C'était les supplices qui étaient pratiqués par les anciens empires tels que Babylone, les Chaldéens, tous ces vieux empires de l'humanité. Et c'est quelque chose de terrible parce que vous avez les mains clouées, vous avez les pieds cloués, et à ce moment-là, eh bien, au bout d'un certain temps, et c'est le temps qui parle, hein. Et Jésus est mort rapidement, il nous a dit le texte, hein, je ne sais plus, ça doit être dans Jean, mais il y a des crucifiés, on nous rapporte qu'il y a des crucifiés, parce qu'il y en avait des milliers à l'époque, hein, pas certaines illusions dans tout l'Empire, hein, et quelquefois qui souffraient pendant des heures et des heures, voire plusieurs jours, hein, et qui finissaient par mourir, et ils mouraient d'étouffement, alors, ou de soif, enfin de toutes les choses, c'est abominable. À la verticale comme ça, c'est terrible, hein, c'est affreux. Hein. Alors il s'est dit, mais moi je passe à côté, c'est formidable. Je ne sais pas si Barabbas s'est converti après. Est-ce qu'il a compris que finalement il était le prototype, enfin c'est pas le mot, mais qu'il était finalement le premier parmi tous ceux qui seraient pardonnés à cause de la mort de Jésus. Parce que si Jésus est mort, il n'est pas mort pour lui, il n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour les nôtres. Et il suffit tout simplement de le reconnaître, qu'il est mort à notre place. Il a donné sa vie pour nous. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour Barabbas. Est-ce qu'il a reconnu Jésus? Est-ce qu'il a compris ce que c'était que la grâce? Lui qui était un homme de loi et de sang? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Pilate, en tous les cas, s'est imaginé que le cœur humain était meilleur, probablement. Et que le bon sens, puisque les questions sont posées continuellement et répétées, lequel voulez-vous que je vous relâche? Lequel? Et que le bon sens prévaudrait sur l'envie et la conscience des gens. Parce que vous savez, quand on est confronté avec des exécutions, ça n'existe plus pour nous. Hein. Je crois que la dernière a eu lieu avant la dernière guerre mondiale. Exécution donc dans les prisons, dans les espaces de détention, c'était la guillotine, hein, chez nous. Hein. C'était pas beau, hein. Franchement. Hein. Hein, et le dernier condamné, c'était en 74, je crois. Hein. Mais toujours est-il que les gens qui voient ce genre de spectacle, hein, c'est terrible, c'est affreux, hein, à vous marquer pour la vie, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Parce que c'est un homme auquel on donne la mort, quel que soit le moyen d'exécution. Et là, c'était surtout public. Vous savez que jusqu'à dans l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française, il y avait des exécutions et on rassemblait les gens pour qu'ils voient l'exécution. Alors les gens venaient en foule pour voir, c'était un spectacle, une curiosité. On venait voir le condamné, qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable, et les gens criaient, voilà. Et pour faire exemple aussi, de dire, attendez, si vous faites comme lui, vous allez voir, vous allez avoir le même sort. Voilà, le bon sens, eh bien il croyait, c'était une mésestime de la méchanceté du cœur des hommes, et c'est ce qui a fait que Pilate était complètement, là, il déraillait complètement, il savait plus où il en est rendu. Alors, Pilate, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur, mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Jésus n'a fait que du bien. Jésus a pratiqué le bien du ciel pour les hommes sur la terre, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ont des souffrances physiques, morales, tous ceux qui sont tourmentés, tous ceux qui sont là aux prises avec toutes sortes de forces occultes qui les écrasent, qui les dominent, qui les piétinent, tous ceux qui sont là, eh bien, à passer de vie à trépas, Jésus a donné de l'espérance. Quel mal a-t-il fait? La question est là, hein. Quel mal a-t-il fait? Alors, que ferais-je donc de Jésus? Ouais, qu'est-ce que je vais faire de lui? C'est le monde à l'envers, hein, quand on est comme ça. Hein. Quel crime, quel mal a-t-il fait? Et la réponse de tous ceux qui sont auditeurs et spectateurs de cette scène, ils vont répondre par un mot, crucifie. Crucifie-le. Toi, tu as le pouvoir, Pilate, de le crucifier. Fais-le mourir. On ne pense plus à Barabbas, hein, finalement. Barabbas, lui, il attend que ça se passe et puis il se dit, bien bientôt, moi je vais pouvoir courir encore tous les chemins et puis refaire ma vie comme je l'ai. Peut-être, hein. Mais toujours est-il que la question. Et nous voyons qu'à ce moment-là, Pilate est pris dans son propre piège. Comme il ne sait pas se décider, comme il sait que Jésus est innocent, que ses parents vivent par jalousie, par méchanceté qu'on l'a livré, il le sait ça, il en est tout à fait conscient. N'importe quel juge pourrait dire, bah, écoutez, c'est évident, on relâche Jésus. Mais lui, il s'est fait prendre à son piège parce qu'il a posé trop de questions. Il n'a pas fait preuve d'autorité, il aurait dû dire, écoutez, c'est comme ça, moi j'ai toute l'autorité, je l'ai parce que je suis le personnage qui a ce pouvoir, mais vous savez, c'est toujours quelque chose quand on donne, enfin, vous allez dire que c'est antidémocratique, mais quand on donne au peuple, et ça c'est l'exemple de ce temps-là, la capacité ou la faculté de choisir, vous savez que les choix n'ont pas toujours été très bons dans l'histoire, hein. Aïe, aïe, aïe. Remarquez, ils n'ont pas été très bons quand c'était un homme qui décidait ou quand c'était un groupe d'hommes restreints qui décidait. Parce que ça, c'est une affaire qui va beaucoup plus loin que nous pouvons l'imaginer. Ça, c'est clair, hein, les décisions qui sont prises. Alors, il va se retrouver pris au piège parce qu'il a placé, et vous savez le piège qui est tombé, dans lequel il est tombé. C'est un peu d'étude biblique que nous faisons ce soir. Hein, parce qu'il a placé Jésus et Barabbas, sur le même plan. Et cela revient à déclarer que Jésus est aussi coupable que Barabbas. C'est ça le problème. Il aurait mis les deux. Voilà, vous avez un juste, vous avez un coupable, d'accord. Mais comme il a dit, mais lequel des deux voulez-vous? Ça voulait dire que de toute façon, dans la peine à décider, la condamnation à décider, ils étaient coupables tous les deux. Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. C'est terrible, il les a mis sur le même plan, alors le peuple, vous pensez qu'à ce moment-là, il a dit, mais qu'il soit crucifié. Et la suite nous apprend quelque chose de tout à fait particulier, c'est que c'est sans appel maintenant. Il y en a un qui va prendre la place de l'autre, ça c'est clair. Le livre du prophète Ésaïe nous dit véritablement ce que sera, par anticipation, l'envoyé de Dieu, le Messie qui sauvera le monde. Sauvera le peuple d'Israël, mais sauvera le monde. Écoutez dans Ésaïe. Il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ouais. Et oui, il a pris la place de Barabbas, hein, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà l'histoire. Alors naturellement, un romain comme Pilate ne pouvait pas savoir tout ça. Mais néanmoins, c'est quand même l'accomplissement d'une prédiction, d'une prophétie vieille de 800 ans avant que les choses se réalisent. C'est ça la question, hein. Que ferai-je de Jésus? Là, il est vraiment, vraiment très ennuyé. Soit de le faire roi, d'imposer, ou de le livrer tout simplement à la punition de la mort. Mais si Pilate avait fait de Jésus le roi des Juifs, eh bien, il se mettait en faute contre César, parce qu'il n'y a qu'un seul roi dans l'Empire. Il n'y a que César. Et là, il était accusé politiquement, religieusement. C'était un blasphémateur puisqu'il s'est fait le fils de Dieu. Et on tue les blasphémateurs. Si Pilate avait dit « c'est le roi des Juifs, c'est votre roi », à ce moment-là, premièrement, il avait Hérode sur le dos, parce que le petit roi Telet, là, il n'était pas très très fin. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'était quand même pas une flèche, hein, quand on voit un peu la vie d'Hérode. Mais toujours, excusez-moi de parler comme ça, hein, mais... Soit il avait déjà Hérode, mais Hérode n'avait pas beaucoup de pouvoir de toute façon. Mais une chose qui était certaine, c'est que là, Pilate tombait sous le coup de la justice romaine, dont lui-même était le grand représentant, et il ne pouvait pas s'en sortir. Parce que je voudrais vous dire, entre un condamné, crucifié comme Jésus, et un roi, ils portent tous les deux une couronne. La couronne royale, qui là, eh bien, est l'emblème de tous les honneurs, du prestige, et finalement de la majesté. Et puis il y a la couronne d'épines, qui est la couronne de l'humiliation, de la honte et de tout ce qui est infamant. Qui aura la couronne dans cette affaire, hein? C'est ça. Hein? La leçon que nous pouvons en tirer dans un premier temps, c'est que Pilate a joué. Il a perdu. Il a voulu pactiser. Il a voulu s'abstenir. Parce que vous avez remarqué, et pourquoi il veut s'abstenir? Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, y avait-il quelque chose à gagner? Dans cette affaire, c'est sordide. Gagner. Mais que le tumulte augmentait, et on verra la suite d'ici quelques instants, c'est ça, c'est faire cause commune avec le mal. Et en voulant être juste, eh bien, il s'est associé, il était complice. Il est devenu le complice du mal dans cette affaire. Mais fallait-il que Jésus meure? Parce que c'était tout simplement, quoi qu'on en pense, l'accomplissement du plan de Dieu et de la volonté de Dieu de sauver les hommes, parce que Jésus était venu, non pas pour vivre, il était venu pour vivre, c'est vrai, faire du bien aux hommes, mais il était venu pour mourir, pour que finalement, eh bien, à travers sa mort, le monde entier soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce n'est plus une juste bataille, ce n'est plus une bonne lutte pour le droit et la justice. On peut dire que cette affaire dans le prétoire, dans le tribunal de Pilate, ça ressemble beaucoup plus à une curée ou à une battue. Vous savez ce que c'est qu'une curée? C'est quand il y a les chasseurs, la chasse à courre, et qui sont en train de prendre un cerf ou je ne sais quel animal, et qui sont en train de le tuer, le vider et le donner au chien. C'est ça, hein? C'est ça, en quelque sorte. Pour exterminer le gêneur, et en l'occurrence le gêneur dans cette affaire, il s'appelle Jésus. Bien qu'innocent, et on va pas avoir d'état d'âme pour le livrer, parce qu'il y a du tumulte, parce que si Pilate ne répond pas aux cris et aux désirs, à la volonté du peuple, à ce moment-là, il va y avoir véritablement du trouble à Jérusalem et en Palestine. Alors il préfère se débarrasser de tout ça. Et la deuxième chose qui est intéressante dans notre texte, qui n'est pas ailleurs, Pilate voyait qu'il ne gagnait rien, on l'a dit, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Les mains lavées, « Je suis innocent. » Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Il s'est peut-être lavé les mains. Sa femme l'a prévenu. « Attention, fais attention, mon mari, fais attention, Pilate. » Parce qu'il y a un enjeu qui te dépasse. C'est pas une histoire, hein, finalement, seulement religieuse, c'est pas une histoire seulement politique, c'est une histoire qui va beaucoup plus loin. Ne t'en mêle pas, ne rentre pas dans cette affaire. Et là, à ce moment-là, eh bien, on peut voir la scène, comme on l'a vu dans certains films, Pilate, dans toute sa majesté, va demander à un serviteur qui lui amène une bassine, et il va se laver les mains devant tout le monde. Mais les mains de Pilate sont sales. Elles sont encore sales, elles sont encore plus sales qu'avant. Il peut les passer savon de Marseille, qui n'existait pas à l'époque, je suppose, et tout ce que vous voudrez, hein. Non, ses mains sont sales, voilà, parce qu'il y a deux choses, il y a l'eau et le sang. Tiens, c'est biblique ça aussi, c'est un choix mystérieux, parce qu'on peut laver le corps, mais vous savez ce qui a besoin d'être lavé? C'est le cœur de l'homme, ça change tout, c'est le cœur de l'homme. Jésus en parlera dans une parabole, enfin, une forme de parabole, si vous voulez, dans Marc chapitre 7, quand il dira « Mais c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. » La corruption, les infidélités, la haine dans le cœur, la folie, enfin toutes sortes de choses, c'est ça ce qui a besoin d'être lavé. Les mains peuvent être lavées tous les jours. D'ailleurs, Jésus leur enverra en pleine figure aux pharisiens en disant « Vous nettoyez finalement l'extérieur de la coupe, tout ce qui se voit, mais à l'intérieur c'est de la rapine, c'est du vol, c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie, c'est de la haine que vous avez, c'est le cœur qui a besoin d'être changé. » Vous savez que rendre la justice pose un problème à Pilate. Hein. Et c'est l'apôtre Paul, qui était un homme courageux et qui n'avait pas peur de dire ce qu'il y avait à dire. Dans Galates, par exemple, il dira tout simplement, au chapitre 1er, au verset 10, cette parole. Il dira, « Mais, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » L'apôtre Paul, lorsqu'il avait la vérité à dire, eh bien, il la disait au risque de sa vie. D'ailleurs, ça lui a coûté très cher aussi à lui. Et Jésus a été l'homme de la vérité, et il a dit la vérité, mais il y avait ceux qui voulaient l'entendre et ceux qui ne voulaient pas l'entendre. Et je pense que quand on prêche l'évangile, hier comme aujourd'hui, devant Pilate ou devant qui vous voulez, moi je pense que la vérité doit être dite dans les formes, mais dans le fond elle doit être dite quand même. Et on s'aperçoit que quelque part, eh bien, les choses doivent être dites dans l'équité, comme Dieu nous a demandé. Et Jésus n'a pas reculé, au risque Et le risque, il l'a connu? Eh bien, c'est de mourir, tout simplement. Et c'est la tragédie de la neutralité de Pilate. La neutralité des hommes qui entendent l'évangile aujourd'hui, d'hier et encore maintenant. Ah, je prendrai ma décision plus tard. Je ne sais pas. Et puis, bon, pour l'instant, c'est trop tôt. Et à force de dire trop tôt, finalement, un jour, vous entendrez peut-être dire, mais c'est trop tard. Il y a eu des paraboles comme ça qui ont été dites par Jésus. Hein. Toujours plus tard, quand je serai dans telle ou circonstance. Mais on n'a pas la maîtrise de notre vie, on ne sait pas. S'il y a une décision à prendre pour Jésus, c'est maintenant. Il faut la prendre maintenant, quand on sait la vérité, quand on sait que Jésus est juste, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu comme le Fils de l'homme pour s'identifier à la condition des hommes de souffrir avec les hommes, mais pour que les hommes soient sauvés en croyant en lui parce qu'il meurt à notre place. On connaît, on sait maintenant, naturellement. Et la grande difficulté, c'est d'être neutre. Il y a des pays qui ont été, dans la dernière guerre, qui se sont déclarés neutres. Ouais, ils étaient neutres. Je veux pas dire, mais ils étaient neutres pour faire la guerre, mais ils étaient pas neutres pour recevoir l'argent hein. Et l'or qui a été volé finalement aux nations conquises. Je ne vais pas rentrer dans un débat parce que c'est quand même tragique ça aussi. Hein. Ouais, la neutralité, c'est quelquefois c'est une complicité qui déshonore, hein. Qui déshonore, oui. Et c'est la tragédie justement. C'est une tragédie. Alors Pilate, soucieux de s'éviter des ennuis, c'est ce qu'il dit, hein, le bruit commence à monter et puis les gens commencent à se révolter, et le discrétit, eh ben, il ouvre la porte à l'infamie, et le peuple à ce moment-là s'engouffre. Quand il est dit ceci, « Je suis innocent de ce juste, cela vous regarde. » Ah oui, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Attention. Et là, nous pensons dans une nouvelle dimension de toute l'histoire de l'humanité. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le sang de ce juste, alors cela vous regarde. Comme si Pilate, dans cette affaire qui avait le choix, lui, la capacité de choisir, la faculté ultime de choisir, ne l'a pas fait. Alors c'est le peuple qui va se précipiter pour nous. Tu le crucifies, nous voulons qu'il meure, nous voulons absolument maintenant, eh bien que tu le mettes à mort. Vous avez vu avec moi, c'est terrible, hein, cette imprécation. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est une tragédie. C'est le drame de nos 20 derniers siècles. Vous avez entendu parler de l'antisémitisme? Vous avez entendu parler du peuple juif dans la diaspora? Vous avez entendu parler du peuple juif persécuté qui va se répandre à travers toutes les nations du monde entier? Ce peuple qui va errer ici ou là, qui va vivre, qui va survivre, pour certains qui vont faire de grandes affaires, qui vont devenir pratiquement les maîtres du monde, et qui là vont être engloutis encore par séquences dans des podromes, des pogroms, à travers des disparitions, à travers des camps de concentration, à travers toutes sortes de choses. C'est le peuple, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est terrible une chose pareille. C'est une tragédie deux fois millénaire. Il y a eu d'autres peuples qui ont été exterminés, c'est vrai. On pense aux Arméniens, on pense à tous ceux qui sont là sur les routes actuellement d'origine ou d'inspiration religieuse musulmane et tout ça. C'est vrai. Mais s'il y a un peuple dans son histoire, et ça c'est quelque chose de tragique, qui lui a toujours été persécuté, qui a été chassé d'un pays à un autre, et qui a toujours connu ça, parce que le peuple d'Israël a connu l'Égypte. Il a connu la déportation à Babylone, dans toutes sortes de pays. Et puis, il en a connu d'autres comme ça. Hein. Le temps des nations, ça c'est une réalité biblique. Hein. Tragédie des Juifs, preuve s'il en est, du pouvoir de l'aveuglement, de la folie du sang. Ils ont demandé le sang de Jésus. C'est pas pour ça qu'on doit être antisémite. C'est pas pour ça qu'on doit haïr le peuple d'Israël, parce que Jésus dira « Mais le salut vient des Juifs ». Et nous pourrions dire que toute la connaissance que l'Église d'aujourd'hui, l'Église chrétienne, peut avoir, à commencer par la Bible, l'Ancien Testament, elle nous vient quand même du peuple juif. Peuple juif sous la loi, Église de Jésus-Christ sous la grâce, tout ça c'est eh bien la même ligne. Bien qu'il ne faut pas confondre l'Église avec le peuple juif, c'est deux choses différentes. Mais moi, je crois qu'il y a des rachetés dans les deux camps. Il y a des élus. Ça, c'est une évidence. C'est le pouvoir de l'aveuglement. Eh ben, nous sommes prêts à mourir. Tu nous donnes Jésus, et puis on verra bien après. Nous et nos enfants. Ouah. C'est quelque chose. Parce qu'on a versé le sang de l'innocent. Celui qui était sans péché, qui était venu pour mourir. Jésus a connu cette mort. La différence, c'est qu'il est ressuscité. Pour apporter la liberté, pour apporter la vie, pour apporter la paix au monde, pour ceux qui le veulent, hein, bien sûr. Mais que de millions d'innocents ont payé le prix fort, hein, ont payé le prix le plus abominable. Et cause de la jalousie, de la haine, du préjugé, du culte des religions primaires, c'est-à-dire ce que j'appelle les religions charnelles, où il n'y a pas la vie de l'esprit, où là, naître de nouveau n'existe pas, où la parole de Dieu a disparu, remplacée par des traditions, par des rites, par des cérémonies, par des sacrements, par toutes sortes de choses. Ça, c'est la religion charnelle. Mais la religion en esprit, en vérité, c'est celle de Jésus. Et là, elle subsiste, et elle restera jusqu'à la fin. Celle-là, hein. Ça vous rappelle pas l'histoire de Caïn et d'Abel? C'était autour d'un culte à Dieu, hein. Des offrandes. Vous connaissez l'histoire? Chapitre 5, me semble-t-il, dans la Genèse. Ouais. Voilà. C'est pas très loin de ça, en tous les cas. Mais toujours est-il que Caïn voulait offrir une offrande à Dieu, et puis Abel voulait offrir une offrande. Mais le cœur de l'un n'y était pas. La foi n'y était pas chez Caïn. Alors il a tué son frère. Et voilà l'histoire du monde, voilà l'histoire des guerres, voilà l'histoire des massacres. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Il s'était lavé les mains. Et il voyait pas qu'il avait du sang sur les mains. Et que tous ceux qui l'ont cru, Pilate, eh bien ils avaient tous du sang, mais ils en avaient pour des millénaires du sang sur les mains. C'est terrible. Hein. Alors il a relâché et il a livré Jésus. C'est un fait d'histoire qui est vérifiable par tous les auteurs, entre autres l'historien Flavius Joseph, qui est l'historien des Juifs du premier temps, enfin de christianisme, bien qu'il soit juif. Il nous est dit qu'après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, 40 ans après, en l'an 70, le général romain Titus, qui deviendra plus tard empereur, est venu investir la Palestine, Israël, pour mater une révolte. Et les choses ont été si sérieuses, c'est que quand Titus, le général romain, est passé, il a accompli une prophétie, il ne restera pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. C'est ce qui s'est passé. On a estimé, d'après l'histoire, qu'il y a eu 1 million de morts à ce moment-là. Et c'est à partir de là que les Juifs se sont dispersés pour fuir la persécution dans le monde entier. Les uns sont allés dans toute l'Europe, en Afrique, etc., etc. C'est pour ça que nous trouvons des Juifs partout dans tout le monde. Bon, ils se sont contentés de rester au bord de la Méditerranée au départ. Mais après, ils ont envahi le monde. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Et aujourd'hui, les Juifs n'ont toujours pas reconnu Jésus comme leur Messie. Ça viendra. Nous croyons que le temps va venir où l'Esprit de Dieu va souffler aussi sur la nation d'Israël, qui va pleurer, comme le dit Zacharie, qui pleureront, qui supplieront Dieu, de leur Dieu à eux, leur Dieu, Yahvé, eh bien de pardonner les péchés, le crime qui a été commis par jalousie, par haine de Jésus. Ils n'ont pas reconnu celui que Dieu leur avait envoyé. Et cette première tragédie de la chute de Jérusalem, de la destruction de Jérusalem, inaugure la grande tribulation du peuple du peuple d'Israël. Quand on voit que c'est pas si loin de nous, que cette haine, cet antisémitisme qui s'est développé à partir du début du XXe siècle et qui a pris des proportions inimaginables dans les années 30, 40, à travers les déportations, à travers les camps de concentration, où là, eh bien, la destruction a été industrielle, à travers le gazage, à travers la crémation et toutes sortes de choses. 6 millions de Juifs sont morts, sans compter tous ceux que l'histoire, finalement, a tués. Et vous savez d'où venait la haine à ce moment-là? Elle venait des nations chrétiennes. C'est inimaginable. Savez-vous que les croisades, il y en a eu, je crois, 8 ou 9, mais elles venaient des nations chrétiennes, enfin, les nations européennes qui se disaient chrétiennes, y compris la France, en alliance avec le pape et les rois. Quelle abomination! C'est terrible. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Propreté des mains ou propreté du cœur. Vous savez, pour laver un cœur, il faut que l'homme reconnaisse ses fautes et son péché, reconnaisse qu'il est perdu à jamais, qu'il demande pardon de ses péchés, non pas aux hommes, mais à Dieu, qu'il se convertisse à Jésus-Christ, qu'il naisse de nouveau et qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'histoire. L'histoire de la mort de Jésus, l'histoire de la crucifixion de Jésus, tout simplement. Et je finis par ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Écoutez bien, je termine dessus parce que je crois qu'il est pathétique, il est formidable et je pense qu'il résume très bien ce que nous avons dit ce soir. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. On l'a vu. C'est que tu aimes la miséricorde. Jésus est mort par amour pour chacun d'entre nous, à travers toute l'histoire de l'humanité, à travers tous les siècles. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Cet orgueil humain, cet orgueil religieux, cet orgueil qui est là est plein de racisme, qui est plein d'anti, ce que vous voudrez, qu'il soit anti-musulman ou anti-juif ou tout ce que vous voudrez. Que tu marches humblement. Que tu ne penses pas être le maître du monde, que tu ne penses pas être une race supérieure, que tu ne penses pas être ceci et cela, oui, que tu marches humblement. On t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que Dieu entend et ce que Dieu attend, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce soir à travers sa parole. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous croyons que tu parles encore, Seigneur. Tu parles encore aujourd'hui dans un monde qui n'a pas changé, un monde qui est celui du temps de Jésus. Il y a encore des Pilates. Il y a encore des hommes qui ressemblent au peuple Israël, orgueilleux de sa foi, orgueilleux de sa religion, orgueilleux d'être, en effet, eh bien, ce qu'il n'est pas. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu t'es servi d'une simple femme, la femme de ce Pilate, pour le prévenir, lui faire connaître. C'est vrai. Mais, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que devant le tumulte des hommes, devant leurs menaces, devant leurs cris, devant leurs gesticulations, eh bien, Seigneur, en effet, le vrai chrétien n'a pas à avoir peur. Celui qui croit en toi n'a pas à avoir peur des hommes. Et Pilate a eu peur. Et parce qu'il a eu peur, il a mis au même niveau, eh bien, Barabbas et Jésus. Comme deux coupables, à choisir l'un ou l'autre. Seigneur, c'est pas parce que nous prenons une coupe et que nous nous lavons les mains que nous sommes propres. Ce qu'il compte, Seigneur, devant Dieu, c'est d'avoir un cœur qui a été purifié. Non pas par de l'eau, mais par le sang, par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons, Père éternel, que par-delà les paroles que nous prononçons ce soir, oh, si faibles soient-elles, tu es capable d'envoyer ton esprit de conviction sur ceux qui lisent ta parole, sur ce texte, de ceux qui peuvent aujourd'hui et demain entendre la même parole et être bouleversés à salut. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons que comme tu l'as dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors c'est vrai que l'histoire de notre monde est un monde d'agitation, un monde de haine, un monde où les hommes ne s'aiment pas entre nations, ne s'aiment pas entre religions, ne s'aiment pas parce qu'ils ont des différences et ils voudraient tout simplement, eh bien là, éliminer l'autre. Seigneur, dans le nom de Jésus, toi tu es venu, Jésus, pour rassembler ton peuple. Des hommes de cœur, des hommes qui aiment la vérité, qui pratiquent la justice, des hommes qui, eh bien là, agissent avec miséricorde vis-à-vis des autres, et qui marche, Seigneur, dans la droiture. Seigneur, tu bénis ta parole, parce que Jésus est mort pour nous, et Jésus est ressuscité, nous prions et nous adorons un Dieu vivant, et nous t'en bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Merci notre Père. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.